Beaucoup. On va écouter maintenant Robert Salé, qui travaille à l'ONS Cachan sur les institutions et dynamiques historiques de l'économie pour le CNRS. Et il va nous parler de l'approche des capacités.
Bien, on a vu tout à l'heure, ce matin, le terme de capacité apparaître, capability traduit par capacité. Bon, moi, j'utilise le terme de capacité en français, même si ça implique un travail sur le sens du terme de capacité. D'autant plus que Amartya Sen, puisque c'est de lui dont je vais partir, a développé le concept dans des sens qui lui appartiennent. Qui lui appartiennent. Et que je vais rappeler. Alors, je crois qu'il ne faut pas confondre ce qu'on peut appeler l'approche du travail par les capacités et un concept hypothétique de capacité du travail. Je crois qu'on a déjà suffisamment de termes pour définir la qualification, skill, compétence, etc., sans en rajouter un. En revanche, l'approche du travail par les capacités met l'accent sur sur une vision plus riche, au fond, du travail. Alors, j'ai commencé par rappeler un peu quelques éléments de l'approche de Sen, avant de venir aux questions du travail. Alors, pour Sen, pour une personne, l'étendue de ses capacités équivaut à l'étendue de la liberté réelle qu'elle a de mener la vie qu'elle a raison de valoriser. Au fond, plus l'étendue et la qualité des possibilités accessibles sont élevées, plus au fond elle a de liberté réelle et plus elle a de capacité. Alors ça renvoie, c'est déjà des concepts compliqués qui débarquent. Je crois premièrement qu'il faut prendre au sérieux le terme de raison, c'est-à-dire en début d'après-midi, donc on a beaucoup parlé de désir, de plaisir, etc., qui renvoie plutôt ou de douleur, qui renvoie plutôt au langage au fond de la philosophie utilitariste, enfin en tout cas dans le débat de l'économie. Amartya Sen, sans y être opposé, a quand même bâti une approche théorique qui est tout à fait différente. Et donc la notion de raison ici renvoie à des valeurs, à mon avis, à des valeurs qui peuvent être morales ou éthiques, renvoie aussi à des objectifs fondamentaux, et pourquoi pas à des droits fondamentaux de la personne. Et aussi, la notion de raison implique la réflexivité, c'est-à-dire si la personne a raison, c'est-à-dire qu'elle connaît ses raisons en même temps. Évidemment, on n'est pas non plus dans l'ordre de la pulsion, ni du stimulus-réaction. Alors, cette question-là est d'autant plus importante que si on la transpose au problème politique central de la cité ou d'une collectivité, quelles sont les activités qu'une société peut aider chez les personnes? Par exemple, si vous voulez édifier un monument à votre chanteur favori, est-ce que la collectivité doit vous aider à faire ça? Donc, il y a une question de choix. Des fonctionnements, comme Sen l'appelle, qui sont de valeur à la fois pour les personnes et pour la collectivité. D'autre part, Sen amène, au fond, dans la question du travail, un principe de justice. Les problématiques de justice, non pas simplement d'efficience ou de performance, et plus exactement, au fond, son principe de justice, c'est l'égalité en liberté réelle entre les personnes, et il voit l'extension des libertés réelles, d'une part comme une fin du développement économique et social, mais en même temps comme un moyen de ce développement économique et social. Autrement dit, même si évidemment dans la réalité on a toujours des tensions plus ou moins locales et plus ou moins générales entre justice et efficience, Au fond, ce qui l'intéresse, c'est de voir si on peut concevoir des dynamiques dans lesquelles le primat qui est donné au principe de justice n'entrave pas le développement d'efficience, mais lui permet le développement d'efficience selon une certaine orientation, avec ainsi des effets de retour ensuite vers efficience et justice. Au fond, la notion de capacité croisant ces deux concernements. Bien, alors, qu'est-ce qu'on appelle des fonctionnements chez Amartya Sen ? C'est des choses, évidemment, qui méritent d'être précisées assez nettement, mais par exemple, il prend des exemples du genre vivre en bonne santé, être bien éduqué, participer à la vie de la communauté. Mais il n'aborde jamais en tant que tel l'activité de travail comme fonctionnement. Donc la question qui m'est posée ici, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme proposition et poser comme question si on essaie de ranger l'activité de travail comme étant une activité de valeur qui peut être rajoutée au fonctionnement que la collectivité a raison de soutenir par ses moyens. Alors, très vite, j'y reviendrai tout à l'heure sur les quatre dimensions de la capacité qui doivent être prises ensemble, même si effectivement elles sont inégalement présentes dans un travail particulier ou dans le travail d'une personne. Capacité de choix, de réalisation, capacité comme potentiel d'accomplissement et capacité à délibérer et à revendiquer, enfin, si je traduis librement voice par revendiquer, ce qui demande, il y a aussi une dimension d'expression dans la voice, pas seulement la revendication. Et sur un plan, disons, de politique globale de la cité, cette question des capacités pose le problème du processus démocratique par lequel une collectivité détermine les capacités qu'elle entend soutenir, un problème de conception et de mise en œuvre de politiques adéquates au développement des capacités, et plus généralement, au fond, une conception de l'organisation sociale, si je puis dire, comme un concernement de la collectivité et de chacun de ses membres, de former, préserver, développer les capacités de chacun, avec des ressources, selon des formes et des procédures, dont l'adéquation aux fins soit publiquement délibérée, évaluée et, si nécessaire, ajustée. Alors, j'ai mis un petit conseil en rouge aux auditeurs parce que Amartya Sen insiste énormément sur sa position méthodologique qui est de ne pas fournir la solution optimale à un problème qu'on rencontre, qu'une collectivité rencontre ou qu'un gouvernement rencontre. Donc il a une position qui tranche par disons, la position moyenne dans l'économie. Je trouve qu'il amène un bol d'air frais dans l'économie. En fait, son exigence est d'essayer de dire voilà les paramètres, les éléments qui sont pertinents dans un problème, voilà un petit peu la manière dont il faut les organiser, mais il y a une pluralité de solutions possibles et c'est à la collectivité, par des formes de délibération, de discussion et de décision, d'arriver par elle-même à la solution. Donc cette position de retrait fait que, d'une certaine manière, il garde aussi son cadre théorique relativement ouvert, ce qui nous autorise, enfin, dans le programme de recherche européen que je coordonne, à essayer de le développer de manière autonome. Alors, l'approche par les capacités du travail n'est pas une approche normative au sens où on pourrait le penser. Je dirais que c'est plutôt une hypothèse anthropologique pour enquêter sur les réalités du travail. Non pas évidemment une affirmation pour dire la réalité est comme ça, mais c'est oui, l'engagement dans le travail a comme horizon pour la personne une espérance de capacité sous les figures de la liberté de choix, de la réalisation, c'est-à-dire de pouvoir de faire ce qu'on entreprend, de l'accomplissement de soi, et d'être entendu et de peser sur les choix collectifs. Mais en même temps, quand on fait une enquête, on a aussi, attention, non, il n'en est pas ainsi, ou il est un peu ainsi, car il y a toute une série de facteurs, ce que Sen, dans son langage, appelle les caractéristiques focales, qui contraignent, entravent, dévoient, empêchent effectivement cette espérance, si je prends cet langage-là, d'être satisfaite. Et il y a un autre élément très important chez lui qui est le fait qu'on peut très bien ne pas percevoir les possibilités qui se présentent dans sa situation de vie et de travail, ce qu'il appelle les préférences adaptatives. C'est-à-dire vous êtes tellement habitué à une situation que vous êtes enfermé dedans et vous ne voyez plus, alors qu'une enquête, même de votre part, en élargissant un peu le regard, vous montrerait qu'il y a d'autres ressources que celles que vous utilisez, qu'il peut y avoir d'autres possibilités, mais vous ne voyez plus ça parce qu'il y a cette dimension des préférences adaptatives. Ça renvoie d'ailleurs à une idée intéressante qu'on peut retrouver dans l'histoire des sciences sociales, c'est-à-dire que l'enquête n'a pas qu'une vertu de connaissance, elle a aussi comme vertu de poser les fondements à partir desquels une collectivité peut bâtir des politiques qui créent de nouveaux possibles. Repensons à l'histoire des politiques sociales, par exemple, pour la création de la dimension du social, historiquement. Enfin, on peut penser, et ce que j'ai entendu depuis deux jours, et tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'a dit Davosi, on peut penser qu'effectivement, cette enquête et la référence, au fond, à l'engagement dans le travail comme espérant de capacité, est fondée eu égard aux transformations du travail, parce qu'on voit dans le même temps, de manière extrêmement contradictoire, l'appel à l'autonomie et, au fond, à l'engagement de la personne en tant que personne dans le travail pour accomplir du mieux possible ce qui lui est demandé, et en même temps, une évaluation et plutôt un contrôle a posteriori par la performance qui, finalement, a tendance à nier ce qu'elle engage par elle-même. Et comme les logiques de performance et de management participatif par la performance ont aussi comme perspective de faire en sorte que la personne intériorise comme contrainte ces évaluations par la performance, elle est placée dans une tension extrêmement difficile entre le fait de devoir déployer sa liberté au fond, dans l'acte de travail et en même temps se voir nier l'existence de cet engagement. Dernier point, qui est que chez SEN, il y a toujours un ensemble de fonctionnement qui est considéré, c'est-à-dire que nous poursuivons plusieurs objectifs toujours dans la vie, et si on ajoute le travail comme un fonctionnement de valeur, ce n'est pas évidemment un étalon de valeur unique, ni pour la collectivité, ni pour la personne, mais c'est une activité de valeur parmi d'autres, et donc la question de pouvoir mener de front en dégageant des marges de liberté et de choix de ces différentes activités, devient un problème central, collectivement, mais aussi au niveau de l'acte de travail lui-même, au niveau de l'entreprise, au niveau dans les différents niveaux décisionnels. Alors, les quatre dimensions de la capacité, je vais essayer de tenir mon quart d'heure. Au fond, la capacité de choix, c'est donner toute sa place aux raisons de travailler de la personne. Et dans ces raisons de travailler, il y a évidemment des choses sur les conditions de travail, on en a beaucoup parlé, mais j'ajouterais « et de vie », parce que dans cette idée que le travail est un moment de la vie qui fait partie, au fond, d'une recherche de réalisation et d'accomplissement, on ne peut pas, effectivement, considérer le travail indépendamment de la vie, ni la vie indépendamment de le travail. Et quelqu'un disait hier « on entre dans l'entreprise avec ce qu'on est », et on en ressort avec ce que l'entreprise a fait de nous. Je pense qu'ici, l'approche par les capacités voudrait dire aussi, il faut entrer dans l'entreprise avec la perspective de sortir de l'entreprise avec ce qu'on était avant, développé, et pas simplement avec ce qu'elle a fait de nous. Donc c'est évidemment une dimension tout à fait importante. Alors, capacité de réalisation à pouvoir d'être et de faire, qui peut avoir une dimension individuelle et collective. Je n'insiste pas parce que là, ça se rapprocherait, disons, plus classiquement de la notion de compétence. La capacité comme potentiel d'accomplissement. Je crois qu'il y a dans les transformations actuelles du travail, il y a une dimension nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a un certain rapprochement du produit ou du service fait des personnes qui le font, compte tenu de ces systèmes de décentralisation, de multiplication, de formes de coordination, de réseaux, etc. Et donc, de plus en plus, et on le voit dans les organisations très concrètes des entreprises, hein, il y a un certain nombre d'enquêtes qui le montrent, le produit ou le service est en fait un prolongement de l'acte de travail, et il est mis en scène comme ça par l'entreprise, parce qu'elle sait que le fait que le produit devienne la perspective du travailleur permet d'avoir un produit de meilleure qualité, mais en même temps, en maintenant évidemment le droit de propriété, elle lui arrache cet accomplissement de lui-même, au fond, à la fin du travail. Mais il y a là aussi, dans l'approche par les capacités, des choses, le fondement des droits économique des travailleurs. Enfin, la capacité à délibérer et à revendiquer, qui est absolument fondamentale chez Sen, que Sen est un libéral au sens politique, c'est-à-dire il n'imagine pas que des choix ne soient pas démocratiquement élaborés et décidés. Ce qui pose une série de questions sur les ressources, les droits, les procédures qui sont nécessaires dans le travail et hors du travail, et sur les expressions individuelles et collectives, et un problème beaucoup développé dans la littérature sur les capacités, mais surtout dans les sciences politiques, c'est quelle neutralisation des asymétries de pouvoir peut-on faire pour permettre cela. Donc, j'ai déjà dit cela, et je vais passer assez vite. Dans la... En fait, c'est un schéma... Je vais peut-être aller directement au schéma d'après, en fait, parce que ça ira... Ça sera plus rapide, peut-être. Pour contraster par rapport, au fond, à cette approche qui a été déjà présentée et critiquée à plusieurs reprises dans les contributions, qui, au fond, ce qui est en bas du schéma, l'approche instrumentale, c'est-à-dire on a, mais ça, ce qui est, je l'ai fait pour les politiques publiques, mais ça peut très bien s'appliquer dans l'entreprise, effectivement, on a un système où les ressources, et en particulier le travail qui est fait, est évalué à partir de performances quantitatives, donc des indicateurs de performance, dont on parlait tout à l'heure, et avec effectivement le biais qui est bien connu d'ailleurs en théorie économique, dans les questions de décisions rationnelles, c'est-à-dire que, au fond, la priorité de l'action de chacun devient de maximiser son profil statistique et non pas d'améliorer, au sens de la qualité, les situations qu'il a à traiter. Et donc, on arrive à des systèmes, comme dans les politiques publiques, où quand on demande à un prospecteur placier de la NPE de faire, de voir 120 personnes dans la journée, et qu'il est évalué au niveau du nombre de visites qu'il a pris, et évidemment, là, le concernement sur les capacités de la personne disparaît, vu la priorité qui est donnée. Alors, tandis que dans une approche par les capacités, en fait, le schéma est ternaire et il y a un système d'aller-retour, au fond, entre les trois paramètres, avec des objectifs qui sont définis en termes d'objectifs de valeur, puisque, au fond, la perspective de l'action, ce sont des objectifs de valeur. Et dans le cas dont je parlais à l'instant, ce serait la qualité de l'emploi qui est obtenue, l'inclusion durable ou le développement professionnel. Et le développement des capacités est jugé à l'aune, effectivement, de la qualité, de l'étendue des résultats qui sont obtenus pour chacun. Et les flèches dans les doubles sens indiquent qu'effectivement, dans une politique publique ou dans une firme, il doit y avoir des phénomènes de rétroaction et de feedback qui permettent de réviser en même temps et de cibler mieux la nature des ressources qui sont engagées, de manière à pouvoir engager un cercle vertueux. Et évidemment, dans ce cas-là, les processus d'apprentissage ne peuvent pas être pensés indépendamment des processus de mise en œuvre, dans lesquels il y a une participation, effectivement, de tous les acteurs concernés. Et dans une entreprise, par exemple, ça veut dire qu'on ne peut pas se limiter. Il faut qu'il y ait les travailleurs et leurs représentants dans ce sens-là et l'employeur, mais les collectivités territoriales, par exemple, des associations ou d'autres, peuvent très bien, pour certains problèmes, avoir toute la légitimité d'être mises autour de la table. J'en termine sur un exemple de résultat. Donc, pour bâtir une enquête, il y a je passe à l'anglais parce que je réutilise d'autres. Je m'en excuse, hein, d'une certaine manière, j'utilise des transparents qui ont été faits pour d'autres enceintes. Évidemment, c'est assez complexe parce qu'il faut combiner des approches quantitatives et qualitatives. Il faut regarder à la fois des données subjectives et aux circonstances objectives de vie et de travail, c'est-à-dire il faut bâtir un questionnement qui soit le questionnement du chercheur, au fond, informé de l'approche par les capacités sur les circonstances de la vie et du travail, et requérir en même temps, effectivement, les données subjectives sur l'opinion de la personne. Pourquoi ce double affaire ? Parce que, dans l'approche par les capacités, on ne peut pas croire, du premier regard à ce que la personne vous dit de sa propre évaluation, parce qu'il y a des problèmes d'adaptation, d'adaptation des préférences, et donc des réponses qui tiennent à ce que, par exemple, il y a eu des enquêtes là-dessus, un pauvre, par exemple, aura tendance à sous-estimer l'état de sa pauvreté, parce qu'il est vite habitué, et le fait qu'il peut y avoir d'autres possibilités qui seraient de valeur pour lui, ont disparu de son espace de pensée. Donc il est très important d'avoir cette double interrogation dans le même temps. Et dans une firme, il faut confronter et rassembler des données qui viennent à la fois de la direction d'entreprise et des employés. Et enfin, il faut collecter de l'information sur deux dimensions qui sont, au fond, quelle est l'étendue de la liberté réelle de choix par exemple d'un salarié dans l'entreprise, quelle possibilité de promotion professionnelle il a, est-ce que l'emploi qu'il a été défini de telle manière qu'il ouvre à un développement professionnel, à de nouvelles possibilités dans le futur, soit dans l'entreprise, soit ailleurs. C'est ce que Sen appelle l'opportunity side. Mais il faut aussi avoir un questionnement sur le process side, c'est-à-dire comment le process décisionnel est construit et quelles sont les participations de chacun dans ce process et comment, parce que dans la capacité pour voice telle que l'entend Sen, telle qu'elle a été développée dans la littérature, ce n'est pas simplement la liberté de dire son mot, mais c'est effectivement le fait que ce qu'on dit est pris en compte, d'une certaine manière, dans la décision finale. Alors, le CEREC, qui fait partie de notre programme de recherche européen, a bâti depuis, en relation avec l'INSEE et, je crois, un autre organe, et le ministère du Travail, une enquête qui essaie de s'inspirer de ce questionnement sur la formation professionnelle, la formation continue en entreprise. Et donc, je redonne, mais je vais passer, j'imagine que vous savez ce qu'il en est, et je vais aller tout de suite au résultat. Donc, voilà un peu, sur un échantillon représentatif, on a donné des résultats qui permettent de hiérarchiser les firmes, depuis celles qui ne s'intéressent, qui n'ont pas très peu d'intérêt à la formation continue, qui sont pas loin quand même de la moitié des entreprises. Ensuite, il y en a un quart qui est dans une simple logique de compétence, c'est-à-dire c'est la compétence individuelle entièrement resserrée sur les intérêts et les objectifs de l'entreprise. Mais il y en a un quart qui progressivement introduisent de fait, hein, sans le savoir, c'est qu'évidemment la dimension de réflexivité d'approche par les capacités serait très importante. Si les acteurs collectivement savent, ils s'engagent dans une pratique empiriquement dans une approche qui peut être susceptible d'une approche par les capacités, ils auraient évidemment de nouvelles idées pour développer leurs actions. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et on a quatre étapes, et de manière extraordinaire, au fond, il y a une hiérarchie des entreprises selon qu'elles ajoutent une étape à la deuxième, à la troisième et à la quatrième. Et on arrive, au fond, à 10% des entreprises qui offre effectivement un ensemble d'opportunités de formation continue à leur personnel, qui essaient d'établir une égalité d'accès, alors qu'on sait qu'il y a de très grandes inégalités d'accès à la formation continue selon la qualification, qui informent les employés sur les opportunités de formation et qui autorisent une expression individuelle et collective sur les firmes des politiques. Alors, mon dernier mot juste là-dessus, c'est pour vous montrer que dans ces 10%, on est dans des cas de restructuration d'entreprise, avec, dans des contextes aussi d'innovation dans le produit ou dans le design, et dans des contextes de sécurité de l'emploi. Et je trouve cette idée très intéressante, puisqu'au fond, dans les endroits de transformation les plus importants, eh bien, de facto, d'une certaine manière, des éléments d'approche par les capacités s'imposent aux acteurs eux-mêmes. Merci bien de m'avoir écouté.